Vous connaissez sans doute l'histoire de Caïn et Abel, et puis d'Ésaü et Jacob. N'avez-vous pas été choqué par le fait que Abel soit préféré à Caïn, comme ça, sans raison, et Jacob à Ésaü? Alors, comme je trouve ça un peu curieux, je vous propose de relire ces récits dans le livre de la Genèse et de voir comment comprendre ces histoires. Alors, l'histoire de Caïn et Abel, c'est au chapitre 4 de la Genèse. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Alors Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn, bien sûr, fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit alors à Caïn, « Mais pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il ainsi abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché qui est tapis à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Bon, après, cette histoire qui se termine mal, effectivement, de deux frères, de deux jumeaux, je vous propose d'entendre dans, un peu plus loin dans la Genèse, au chapitre 25, à partir du verset 19, une autre histoire de deux frères, mais qui se terminera un peu mieux, même si la situation est dans un sens la même, avec le plus petit qui va être préféré, béni, plus que l'aîné. Genèse 25, au verset 19, voilà. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aran, et sœur de Laban. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel entendit sa prière. Sa femme Rebecca devint enceinte. Et voilà, les enfants se heurtaient dans son ventre, et elle dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera serviteur du plus petit. » Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses garçons grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob était un homme parfait, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier, mais Rebecca aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Ésaü dit alors à Jacob, « Laisse-moi, s'il te plaît, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, le roux. Jacob dit alors, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je suis de toute façon sur le point de mourir, alors à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et le potage de lentilles qu'il avait préparé. Ésaü mangea, il but, puis il se leva et s'en alla, et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Alors, dans la suite du récit, bien sûr, on connaît ce récit, cette histoire, sinon vous pourrez la relire chez vous, avec Jacob qui se débrouille avec sa mère pour voler finalement la bénédiction d'Isaac, bénédiction qu'Isaac réservait pour Ésaü. Jacob donc aura cette bénédiction et Ésaü aura aussi une bénédiction, mais un peu une bénédiction de deuxième ordre, si je puis dire. Voilà la lecture que je vous proposais pour aujourd'hui. Et pour commencer à méditer sur ce que Dieu nous donne finalement comme bénédiction, je vous propose de chanter le psaume 23 dans le psautier français. Dieu mon berger me conduit et me garde. Les trois premières strophes de ce psaume 23. Ô Éternel notre Dieu, au moment où nous allons méditer ces Écritures anciennes, donne-nous d'y trouver une source inédite qui éclaircisse nos voies, qui libère nos conversations, qui nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux soudain levés vers ce monde que tu aimes, de voir qu'il n'est pas fini, Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, retardés un peu dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes écritures, mais encore de nos existences, de notre temps, de notre monde, de nos frères et sœurs et de ces pages ouvertes devant nous. Ne trouvez-vous pas cela vraiment injuste que Abel soit préféré à Caïn et que Jacob doive être préféré, reçoive finalement une bénédiction supérieure à celle d'Ésaü? Pourtant, la Genèse ne nous donne aucune raison d'expliquer ces choix. Au contraire, vous l'avez entendu, Caïn et Ésaü sont les aînés et ils sont présentés comme plus méritants, comme plus actifs que leur frère cadet. Caïn est le premier à avoir l'idée d'offrir une offrande à l'Éternel, alors qu'Abel est un peu à la remorque, finalement, il l'imite. Ésaü, lui, est actif, il va chasser du gibier, il laboure la terre, alors que Jacob semble être plutôt un professionnel de la sieste et des vacances, restant tranquillement sous la tente. Alors pourquoi est-ce que Dieu choisit Abel plutôt que Caïn, porte un regard favorable sur lui? Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est le plus petit, le plus faible, qui doit l'emporter, diriger, et que le plus fort doive le servir? Pourquoi est-ce que Dieu préfère l'un à l'autre? C'est le libre choix de Dieu, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que Roméo aime Juliette? Pourquoi est-ce que Juliette aime Roméo? C'est comme ça. Dieu est Dieu, et il aime qui il veut, il n'a pas besoin de se justifier, il n'y a pas de raison à cela, il bénit qui il veut. Il porte un regard favorable sur qui il veut. Alors il n'est pas un Dieu que l'on achète, nous dit ce texte. Il n'est pas un Dieu dont on gagnerait les faveurs en faisant des offrandes, en travaillant dur, en étant méritant. Il n'est pas un Dieu dont les faveurs vont surtout aux bien-nés. Il n'est même pas un Dieu qui aime finalement les travailleurs, ceux qui en font plein de bonnes religions comme Caïn. Non, Dieu aime qui il aime, et c'est comme ça. Alors cela pourrait être inquiétant, c'est arbitraire de la grâce de Dieu. Et dans l'histoire, cela en a inquiété plus d'un, effectivement, qui a dû. Et donc les hommes se sont évertués à trouver des systèmes, des critères, en disant voilà ce qu'il faut faire pour être sûr d'avoir la vie éternelle, ou bien voilà ce qu'il ne faut pas faire, car si on le fait, on n'a sûrement pas la vie éternelle. De donner une logique, des critères bien objectifs. Mais c'est à tort. C'est à tort que l'on penserait cela comme inquiétant, cet arbitraire de la grâce de Dieu. Au contraire, c'est un vrai soulagement et c'est une sécurité pour nous tous, pour chaque homme et chaque femme. Bon, supposons d'abord que nous soyons aimés par Dieu à notre naissance, par exemple. On pourrait se demander s'il n'y a pas le risque que Dieu ensuite, eh bien, nous rejette en cours de route, car il en aurait assez de nos insuffisances et de nos erreurs. Eh bien non. Eh bien non, nous dit ces textes, Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même, il est fidèle à ses choix. S'il a aimé un jour, il aime toujours. Et on le voit dans ces histoires, finalement. D'abord, quand Dieu protège même Caïn et l'accompagne, mais encore mieux dans l'histoire de Jacob, cette bénédiction qui est donnée à Jacob dans la suite, Dieu lui dit « Je t'accompagnerai sur les chemins que toi tu choisiras ». Sans condition, Dieu lui promet de l'accompagner, pour l'aider à retrouver le bon chemin, à retrouver la promesse, la vie finalement. Dieu lui promet qu'il va l'accompagner sans cesse. Dieu ne lui dit pas finalement de condition à cette bénédiction. Dieu l'accompagnera dans les bons jours et dans les mauvais. Dieu l'accompagnera quand il sera en guerre contre son frère pour l'aider à se réconcilier. Dieu l'accompagnera même quand Jacob sera en lutte contre Dieu lui-même et il lui donnera sa bénédiction. Oui, Dieu est donc fiable. S'il nous aime à notre naissance ou à notre conception, ou même avant, dès l'origine de l'univers, Dieu nous aimera pour toujours, sans condition, toute notre vie. Bon, c'est le premier point. Vous allez me dire que, d'accord, mais est-ce que nous avons été élus ? Est-ce que dès notre naissance, dès notre conception ou dès l'origine de l'univers, Dieu nous a marqués dans ses petits papiers comme étant quelqu'un qui est promis à la vie, à la bénédiction, qui a ses faveurs, finalement ? Eh bien, oui. Et c'est ce que nous dit, à mon avis, justement, ces deux histoires de frères jumeaux. Sommes-nous un Jacob ou sommes-nous un Ésaü ? Cette question a préoccupé des générations et des générations de croyants, mais si l'on regarde de près ce texte, nous sommes à la fois les deux. Chacun de nous est à la fois Ésaü et Jacob, et par conséquent, il y a du Jacob en chacun d'entre nous. Nous sommes cet être choisi par Dieu, aimé par Dieu. Nous sommes cet être sur qui Dieu porte un regard favorable. Jacob est une des dimensions de notre être et Ésaü est une autre dimension. En effet, le texte est très clair quand il dit littéralement « Jacob était un homme parfait ». Alors les gens de l'époque ne sont pas plus idiots que nous. Ils savent très bien qu'il n'existe pas au monde une seule personne qui est parfaite, bien sûr. Et la Bible ne mélange pas tout. Dieu seul est parfait, juste. Dieu seul est infaillible. Tout le reste est relatif. Tout le reste est empreint de péché, bien sûr, d'imperfection, d'insuffisance, forcément. Jésus lui-même refuse d'être appelé bon et il insiste. Dieu seul est bon. Alors de nombreuses traductions de la Bible sont choquées par ce « Jacob était un homme parfait ». Alors ils essayent d'arranger un petit peu, disant que Jacob était un homme tranquille, Jacob était un homme assez bien. Pourtant, le texte hébreu dit bien « Jacob était un homme parfait ». C'est d'autant plus surprenant que son comportement dans la suite de l'histoire est quand même discutable. Il va extorquer à Ésaü son droit d'aînesse. Il trompera ensuite Isaac pour voler la bénédiction qu'il réservait pour son fils aîné. Il va dépouiller son beau-père de son troupeau par une ruse de manipulation génétique. Bref, l'auteur de ce passage attire ainsi notre attention. Il met un signal en disant « Jacob était un homme parfait ». Cela dit au lecteur, cela nous dit, attention, je ne parle plus ici d'un personnage historique, mais d'un type philosophique. Ce dont je vous parle ici, ce n'est pas, ou ce n'est plus seulement Jacob ben Isaac qui a vécu à telle époque, à tel endroit, mais c'est Ce dont je vous parle, c'est d'un Jacob et d'un Ésaü qui existent en chacun, qui existent en vous. Et donc, cette méditation, cette réflexion que nous propose la Genèse à travers ces histoires de Caïn et Abel, d'Ésaü et Jacob, c'est une méditation sur la double dimension qui existe en chaque être humain. Double dimension à la fois animale et divine, à la fois biologique et spirituelle. Nous sommes, comme Rebecca, porteurs de deux vies à l'intérieur de nous-mêmes, un Jacob et un Ésaü, deux vies qui sont en concurrence ou qui sont en tension. Il n'y a donc pas d'un côté des personnes du type Jacob qui auraient été élues par Dieu de toute éternité pour aller vers les verts pâturages de la Jérusalem céleste ou de la vie éternelle, et d'un autre côté des Ésaü qui seraient considérés comme des bêtes écartées par Dieu. Bien sûr que non. Toute personne est donc choisie par Dieu, prédestinée au salut, aimée par Dieu sans condition et pour toujours. Et nous avons aussi une dimension de notre être qui est évidemment prédestinée à mourir un jour, comme le fait remarquer Ésaü. Et nous voyons dans cette histoire que finalement, les deux dimensions sont bénies par Dieu. On le voit très clairement dans la suite de l'histoire que je ne vous ai pas lue, mais que je vous ai résumée rapidement. Ésaü reçoit aussi une bénédiction, sa part de bénédiction. Et on le voit aussi dans l'histoire de Caïn, même coupable, même meurtrier de ce souffle divin qui habitait l'homme. Eh bien, l'Éternel se préoccupe du sort de Caïn, il lui parle, il l'appelle, il l'accompagne pour protéger sa vie. Et donc oui, il y a là une double bénédiction de Dieu donnée sur la dimension spirituelle comme sur la dimension biologique de notre être, mais ces récits nous propose de donner, oui, notre préférence au petit Abel, au petit Jacob, qui n'est comme rien qu'un petit souffle finalement, un petit souffle qui est donné à chacun, un petit souffle qui est comme caché sous une tente, caché au creux de cet fragile abri, mais qui est essentiel. Il y a donc un Jacob en toute personne. Au début, ce Jacob n'est qu'en gestation, bien sûr, caché au plus profond de notre être. Ce Jacob, nous dit la Genèse, est un homme parfait, demeurant dans les tentes. Et dans ces quelques mots, il y a une description, finalement, de ce qu'est la perfection en nous, de ce qu'est l'enfant de Dieu qui est en chacun de nous. Alors le mot « parfait », bien sûr, ne peut que désigner Dieu. Et cela nous dit notre dimension divine qui existe, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, en chaque être humain. Le verbe « demeurer » nous dit que cette dimension n'est pas simplement temporaire, qu'elle est éternelle, comme Dieu seul l'est d'ailleurs. Alors cette dimension est éternelle, mais vous allez me dire « Abel est bien assassiné par Caïn, par cette dimension animale ». Mais il y a dans ce récit, je ne vous ai pas lu la suite, donc ce n'est pas forcément évident, mais dans ce récit, finalement, il y a comme une résurrection d'Abel, puisqu'il y aura une descendance spirituelle à Abel qui sera donnée à Adam et Ève. Il y a donc toujours de l'espérance, et cette dimension éternelle qui nous est donnée n'est pas abandonnée et perdue par Dieu. Et puis cette dimension parfaite, cette dimension qui demeure éternellement, elle est comme dans une tente de nomade, nous dit la Genèse. Il ne s'agit donc pas de demeurer d'une façon statique comme une bûche ou un caillou, mais à l'image de Dieu qui demeure toujours dans un dynamisme, dans un dynamisme d'une fidélité qui s'adapte toujours aux situations, qui invente, qui pardonne, qui ressuscite, qui guérit. Nous pouvons demeurer dans le mouvement et dans l'être, dans une dynamique de cheminement et de vie. C'est cela qui nous est proposé à travers ces quelques mots de la description de notre nature divine qu'incarne ici Jacob. Jacob est notre dimension divine et Ésaü est une image de notre nature physique, poilue comme un animal, toute pétrie de la poussière rouge du sol, nous dit ce récit de la Genèse. La Genèse nous dit donc que ces deux dimensions existent en chacun d'entre nous dès l'origine de notre existence et que les deux sont bonnes et bénies par Dieu. Telle est notre nature à la fois divine et animale, spirituelle et faite de poussière. Le défi de notre existence est de savoir laquelle de ces deux natures dominera l'autre. Parce que, comme le dit Jésus, nul ne peut servir de maître. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre en mettant ces deux natures à égalité, en ne choisissant pas entre l'une et l'autre. Si on met les deux au même niveau, c'est comme si on mettait dans une même cage un lion et un agneau et qu'on leur dit « débrouillez-vous entre vous ». Alors, Ésaü devient une sorte de Caïn, et le souffle divin est comme écrabouillé en nous, laissant sur terre comme un Caïn errant en ce monde, souffrant, survivant, mais comme traînant sa misère dans une existence, souffrante. Il est préférable donc que Jacob soit préféré, que Jacob l'emporte dans notre préférence sur Ésaü, et que Ésaü, le fort, l'animal, le biologique, soit au service de Jacob, soit au service du souffle divin qui est en nous. Et que ce soit cette dimension-là qui gouverne, qui domestique finalement l'animal qui est en nous. Parce que finalement, l'esprit en nous, lui, il peut dominer sur l'autre dimension sans l'écraser, sans l'abrimer, sans la tuer. Il peut même la bénir, il peut même la faire se régaler, comme on voit Jacob régaler et réconforter Ésaü de sa fatigue. Si c'est Jacob qui l'emporte sur Ésaü, l'histoire se termine par une bénédiction des deux, par une paix, par une réconciliation entre les deux, une abondance pour chacun des deux, et non pas par le meurtre d'une des dimensions, par l'autre. Et cela permet à l'homme d'être pacifié, de vivre de ces deux natures sans renoncer à ni l'une ni l'autre des deux dimensions, chacune étant bien à sa place, chacune étant au service de l'autre, apportant à l'autre ce qu'elle peut apporter. Un humain vivant dans ce monde et en même temps inspiré d'un souffle de perfection, d'un élan de vie, d'un mouvement d'éternité et de création. Mais naturellement, ces deux natures sont en concurrence, en tension à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur de notre Église aussi, car il faut à la fois avoir des rêves, une utopie, un idéal, un souffle, et il faut bien aussi faire des comptes et voir où on en est. Ces deux dimensions sont en tension dans notre société, bien sûr, comme Ésaü et Jacob sont en tension, en concurrence dans le ventre de Rebecca. Et ce n'est pas du tout évident que le spirituel l'emporte sur le matériel. Ce n'est pas du tout évident que le faible l'emporte sur le fort. Ce n'est pas donné d'avance, bien sûr. C'est même incroyable que cela puisse arriver. Rebecca, elle sent cette tension à l'intérieur d'elle-même, et ça, c'est vraiment quelque chose d'utile et de bon. Tant de personnes sont comme des Isaacs qui ne voient absolument pas la question, absolument pas le problème. Isaac, il ne voit même pas Jacob, il le néglige, il n'aime même pas en réalité vraiment Ésaü. Tout ce qu'aime Isaac, c'est le gibier qu'Ésaü ramène de la chasse. Être cet Isaac-là, c'est abandonner à la mort cette excellente dimension de notre être, qu'est la dimension spirituelle. Ce n'est même pas abandonner sa dimension spirituelle pour aimer le corps, mais c'est simplement aimer la seule satisfaction que ce corps peut apporter. L'histoire d'Isaac s'annonce ainsi comme une autre histoire de Caïn, un terrible gâchis qu'Isaac programme finalement par son insuffisance, mais encore une fois, j'allais dire comme souvent, Isaac, enfin je veux dire l'histoire, va être sauvé par les femmes, par Rebecca. Car en bénissant Jacob, finalement grâce à la ruse de Rebecca, Isaac pourra bénir la vraie vie sans pour autant sacrifier la joie qu'il a et qu'il aura toujours à manger du bon gibier. Donc, c'est tout bénéfice. Mais c'est comme malgré lui, finalement. Là encore, je crois qu'Isaac et Rebecca sont deux dimensions de notre être, deux façons d'être, qui nous sont proposées comme une alternative. Voilà, il y a la sagesse et la foi en nous, et puis il y a un peu l'animal qui vit à la surface, à l'écorce de ses instincts et de son ressenti. Rebecca représente ainsi la dimension de bon sens qui existe en chaque être humain. Cette lucidité qui consiste à ouvrir les yeux et à se poser les bonnes questions très concrètement. Elle voit cette tension qui existe dans sa vie, dans son être, entre le temporel, entre le matériel, le biologique, le terrestre et le divin. Et elle se pose alors cette question fondamentale, littéralement il est marqué, « S'il en est ainsi, pourquoi est-ce que moi, je suis ?» Elle est ainsi partagée entre ces deux natures, entre l'animal et le spirituel, et alors elle se pose cette question, « Mais qui suis-je vraiment ? Un animal ou un dieu ? Comment me diriger ? Où avancer ? Sur quel pied danser finalement ? Que choisir très concrètement à un moment donné ?» à un autre, entre la terre et le ciel, entre la violence et le pardon, entre l'envie de profiter et l'envie d'aimer, de donner. Comment choisir entre la chair et l'esprit, entre le biologique et le spirituel, entre la vie et la mort. Quelle espérance choisir, quel chemin, quelle piste emprunter. Alors Rebecca n'est pas seulement sage de philosopher ainsi, de réfléchir sur elle-même, mais elle est prophète, on le voit dans ce récit. Elle représente donc la dimension prophétique qui existe en chaque homme, à moins qu'il n'écrase cette dimension prophétique de son être. Rebecca ne reste pas seule avec cette question existentielle et philosophique, mais elle se pose cette question devant Dieu. Elle écoute ensuite sa réponse, et puis elle va travailler concrètement avec intelligence, avec sagesse, avec sens pratique, à la mettre en œuvre dans son existence, progressivement, peu à peu, comme elle le peut. Et quand ce récit donne le rôle ainsi du prophète à une femme, et non pas à l'immense Isaac, héritier de la bénédiction d'Abraham, c'est pour bien insister là encore, je crois, que toute personne, même la moindre, j'allais dire, même une femme, parce que dans ce contexte, c'est quand même assez étonnant. Donc la moindre des personnes, oui, est faite pour être prophète, pourvu qu'elle se pose des questions et qu'elle se les pose devant Dieu. Et que nul, même le plus grand, le plus savant, le plus estampillé champion de la foi, même le plus grand, même Isaac, n'est pas à l'abri d'être aveuglé par ses propres désirs, tout simplement. Nous avons donc tous en nous-mêmes un Jacob en lien avec Dieu par des anges qui montent et qui descendent sur une échelle, des anges qui montent dire nos projets, nos questions à Dieu et des anges qui redescendent pour nous dire un peu l'éclairage que Dieu nous propose et nous porter son aide. Et nous avons tous en nous un Ésaü à la surface de nos désirs et de nos instincts. Ce que propose l'Éternel, ce n'est pas de détruire ni de mépriser notre corps, mais c'est que notre corps soit mis au service de notre dimension spirituelle. Oui, le plus grand sera au service du plus petit et du plus faible, promet l'Éternel à Rebecca. Et pour que cela arrive, elle devra agir avec intelligence et même avec rusée. Dans ce cas-là, oui, on a le droit de ruser. Il ne s'agit pas de tromper les autres, de leur voler ce qui leur appartient ou la bénédiction de quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais ce récit nous invite à ruser avec notre dimension animale pour que notre meilleure dimension, notre Jacob qui est en nous, l'emporte finalement, même si ce n'était pas donné d'avance. Il ne s'agit pas de nous tromper nous-mêmes, mais Au contraire, il s'agit de voir enfin clair sur notre nature profonde, sur cette tension qui nous habite, de sentir que cette tension est féconde et qu'elle peut être résolue de la meilleure des façons. Mais ensuite, il n'est pas facile, finalement, de mettre le spirituel dessus, car l'animal est toujours un peu jaloux de cette bénédiction, et il va s'emporter, comme va le faire Ésaü contre Jacob. Il faudra attendre, il faudra revenir. Par contre, il est si facile d'être comme Isaac et de n'accorder notre attention qu'aux frémissements intéressants de nos familles, de nos papilles gustatives, rien qu'en pensant à un rôti de chevreuil, finalement. Il y a donc là deux façons d'être, deux cheminements d'espérance possibles. Alors, qu'est-ce qui va finalement décider Ésaü le fort à laisser sa place, la première place, à son minuscule petit frère ? Eh bien, Ésaü réfléchit une seconde, il se pose effectivement dans une perspective et il prend conscience de deux choses intéressantes. Il se rend compte, nous dit le texte, qu'il mourra un jour et puis que la seule nourriture dont il a vraiment finalement envie, c'est celle que prépare Jacob. Ce n'est pas le fruit de sa chasse, de sa force. Alors nous savons bien intellectuellement, bien sûr, que l'Ésaü, que nous sommes aussi, mourra un jour. Mais il est bon d'aller au-delà de cette simple connaissance abstraite, de sentir les limites de ce corps qui est le nôtre, de sentir combien cette simple articulation, ce simple estomac, de sentir que ce poumon que j'ignore superbement tant que tout va super bien, que cet organe est un miracle incroyable, un miracle improbable, fragile, comme suspendu dans un équilibre miraculeux finalement, et soumis à l'usure. Et notre Ésaü peut se rendre compte, oui, de sa fragilité, mais aussi qu'en réalité finalement, le meilleur de ce qu'il vit n'est pas le produit de la force brute, mais c'est ce que prépare Jacob dans le secret de sa tente. C'est le petit fruit spirituel bien cuisiné avec tendresse et fidélité, que c'est ce que prépare cette part divine de notre être, une chose délicieuse, une chose tout d'un coup qui a du sens, qui a du goût, qui a de la beauté, comme une envie d'aimer contre toute attente, une envie de pardonner alors que ce n'était pas logique, une envie de créer, de rêver un monde meilleur, une idée qui nous fait avancer, qui nous permet par une parole, par un geste, par un plat peut-être, de faire avancer quelqu'un d'autre, quelque chose qui nous donne envie d'espérer et de prier. Oui, c'est cela finalement qui a le plus de goût dans notre être, dans notre vie. Et alors nous avons envie de faire comme Rebecca, de pousser le spirituel à la première place et que le fort cède la place au spirituel. Bien sûr, cette dimension est apparue en second dans notre vie. Bien sûr, notre dimension animale va être un peu jalouse. Eh bien, qu'elle aille manger son plat de lentilles et qu'elle laisse s'épanouir en nous maintenant, à la première place, enfin, la foi, l'espérance et l'amour. Amen.